Doha, Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roch Gébillon, bonjour à tous. Il est midi à Kinshasa. Le Malawi vote aujourd'hui pour une élection présidentielle qui s'annonce serrée entre le sortant Peter Mutharika en quête d'un second mandat et de deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection dans ce pays. Les 6,8 millions d'électeurs malawites renouvellent aussi leurs députés et conseillers locaux. Sept candidats sont en liste donc pour la présidentielle, mais le scrutin se joue entre le sortant Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, selon les observateurs. Des réactions à Kinshasa après la nomination hier par Félix Tshisekedi de Sylvestre Ilunga au poste de premier ministre. Si à la coalition Lamuka de Martin Fayolo on qualifie cette nomination de non-événement, le Front commun pour le Congo, dont est issu le nouveau chef du gouvernement, se satisfait de son choix. À l'UDPS, le parti du président congolais, on se montre prudent, tandis que les jeunes quinois attendent du nouveau premier ministre des réponses aux besoins sociaux de base. Reportage à Kinshasa de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
À l'opposition, on n'attend pas grand-chose de la nomination de Sylvestre Ilunga comme premier ministre. Selon Yves Kitt Tumba, le porte-parole de la coalition Lamuka à Kinshasa, cette nomination qui est le fruit d'un arrangement entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila s'inscrit dans la continuité de la même gestion du régime passé.
Au niveau de Lamuka, c'est un non-événement parce que c'est la continuité du régime FCC avec sa mauvaise gestion, le mauvais choix des animateurs parce que rappelez-vous que M. Ilunga n'a pas laissé une gestion éloquente au niveau de la SNCC également. M. Ilunga a conduit cette réforme monstre des entreprises publiques. Nous notons également la mauvaise foi de l'autorité morale du FCC qui veut pérenniser la souffrance du peuple congolais.
Ce point de vue n'est pas partagé par Pius Mwabilu, député national élu de Kinshasa, cadre du Front commun pour le Congo.
Réaction de grande satisfaction parce qu'il fallait finalement que nous ayons enfin un premier ministre. Il est là. C'est un très bon technocrate, un homme expérimenté. Bon, maintenant il faudrait qu'on le voie à l'œuvre. Je ne doute pas, c'est l'instant qu'il va faire du bon travail et il faudrait maintenant que ce soit avec l'appui de toutes les parties.
À l'UDPS, on se montre prudent. Augustin Kabuya, le nouveau secrétaire général du parti de Félix Tshisekedi, attend voir le nouveau premier ministre à l'œuvre.
Il n'a pas encore commencé le travail, il n'a pas encore présenté son gouvernement et son gouvernement n'a même pas encore été accepté au niveau de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire, c'est de lui souhaiter une bonne chance. C'est quelqu'un qui a un CV costaud, c'est un professeur de l'université. Mais tout dépend aussi de la volonté politique qui l'anime.
À la société civile, on recommande au nouveau Premier ministre de s'engager à lutter de manière efficace contre la corruption. Maître Georges Kapiamba est de l'ONG ACAJ, Association congolaise d'accès à la justice.
Nous saluons la nomination du nouveau Premier ministre et nous lui recommandons vivement à ce qu'il puisse s'engager de manière claire et publique, à l'instar du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement des deniers publics.
Et dans les rues de Kinshasa, les jeunes qui ne connaissent que très peu le nouveau Premier ministre attendent toutefois de lui des solutions aux vrais problèmes que rencontre la société congolaise en général et la jeunesse en particulier.
Ce que moi j'attends de lui, social d'abord, et qu'il pense aussi aux fonctionnaires, parce que ex-Premier ministre, il a rien fait. Maintenant moi je lui demande de penser aussi, nous aussi, des étudiants.
Bien qu'il n'est pas connu comme tel, mais notre souci à nous, c'est de venir répondre aux attentes de la population.
Le Premier ministre, M. Ilunga, particulièrement, je lui donne la chance de battre encore un Congo nouveau.
J'attends beaucoup de lui, parce que je suis jeune entrepreneur.
Ce que nous pourrions demander à ces derniers, c'est de pouvoir mieux gérer entre les régimes passés et les régimes présents.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry. Au Bénin, Patrice Talon s'est adressé hier à ses concitoyens dans un message diffusé sur la télévision nationale. Le chef de l'État béninois est revenu sur les violences post-électorales. Le résumé à Cotonou avec notre correspondante Ginette Fleur-Adondé.
Patrice Talon a invité les Béninois à tirer les leçons des manifestations post-électorales. Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique, a-t-il déclaré. Il dit regretter les victimes des deux jours de manifestations à Cotonou.
Cela est très regrettable. Davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense.
Patrice Talon est aussi revenu sur le système partisan qui, selon lui, reste une réforme délicate mais nécessaire. Il a invité les 83 nouveaux députés à se mettre résolument au service du Bénin tout entier pour le vote de lois utiles.
Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays.
Le chef de l'État a regretté l'assassinat de Fiacre Guedji, l'un des guides du PAC de la Pendjari, l'enlèvement des deux touristes français avant d'appeler le peuple béninois à accompagner les réformes engagées pour révéler le Bénin aux yeux du monde pour amorcer le développement tant attendu. De Cotonou, Ginette Loadandé pour VOA Afrique.
Les négociations se sont achevées hier soir entre les généraux au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation sans aboutir à un accord attendu sur la composition du futur Conseil souverain censé assurer la transition. Les négociations ne se poursuivront donc pas aujourd'hui, à moins d'une avancée décisive sur les points de discorde, a déclaré à l'AFP Satya Haraj, un membre de l'ALC participant aux négociations. Selon lui, l'ALC exige la présence de 8 civils et 3 militaires au sein du Conseil souverain. Les généraux, eux, souhaitent, selon lui, avoir 7 militaires et 4 civils.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et nous omettons du studio 1740 de la Voix de l'Amérique. Un juge fédéral a donné raison hier aux parlementaires démocrates qui exigent des documents sur les finances du président Donald Trump avant son arrivée à la Maison-Blanche. C'est la première fois que la justice américaine s'immisce dans le conflit entre le président et l'opposition démocrate qui, forte de sa nouvelle majorité à la Chambre des représentants, a ouvert plusieurs enquêtes à son sujet. Se disant victime d'un harcèlement, Donald Trump refuse de coopérer à ses investigations qui portent sur ses impôts, ses finances ou encore les suites à donner à l'enquête russe. Les chefs du Pentagone et de l'état-major américain vont informer aujourd'hui à huis clos tous les parlementaires du Congrès sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le ministre de la Défense Patrick Shanahan et le chef d'état-major Joseph Dunford vont donc informer les élus des deux chambres du Congrès. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devrait aussi s'adresser aux plus de 500 élus conviés lors de la même réunion, d'après des médias américains. Les enquêteurs de l'ONU travaillant sur des exactions imputées au groupe État islamique contre les Yazidis ont exhumé 12 charniers en Irak, ils disent, réunis des témoignages pouvant être utilisés devant la justice. Yacouba Ouedraogo.
Dans le rapport, le chef de la commission d'enquête onusienne, Karim Assad Ahmad Khan, indique que les investigations de ces 48 enquêteurs sont focalisées sur un massacre de Yazidis en 2014. À cela s'ajoutent des crimes à Mossoul entre 2014 et 2016 et la mort de recrues militaires irakiennes dans la région de Tikrit en juin 2014. Un premier charnier avait été exhumé par la commission à la mi-mars à Kodjo, localité yazidi du nord de l'Irak. Les avancées sont plus lentes que prévues, note Karim Assad Ahmad Khan dans le rapport remis au Conseil de sécurité. Il souligne la nécessité d'établir des procédures claires et efficaces pour utiliser les preuves lors de poursuites judiciaires, ajoutant qu'un programme de protection des témoins a été mis en place. Le Conseil de sécurité a créé en 2017 une équipe d'enquêteurs pour s'assurer que le groupe État islamique réponde d'éventuels crimes de guerre en Irak et en Syrie. Ce dossier est également porté par le prix Nobel de la paix yazidi Nadia Mourad et l'avocate libano-britannique Amal Clooney. Selon l'ONU, le massacre des yazidis, une minorité kurdophone, pourrait constituer un génocide. Le groupe État islamique, vaincu en Irak fin 2017, a laissé derrière lui plus de 200 charniers qui pourraient renfermer jusqu'à 12 000 corps, selon l'ONU.
On termine en Nouvelle-Zélande. L'extrémiste australien Brinton Tarrant, déjà inculpé pour le meurtre de 51 fidèles dans deux mosquées de Christchurch au mois de mars, est désormais formellement poursuivi également pour terrorisme, selon la police néo-zélandaise. L'Australien est donc inculpé maintenant de 92 chefs d'accusation, dont 51 de meurtre, de 40 de tentatives de meurtre et d'un de terrorisme. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi partout où vous suivez VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.